Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'écouter VOA Afrique, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 20 juillet 2016. En direct de Washington DC, la capitale des États-Unis, Eric Manilakidze et Anne Albertson avec vous à la une ce matin, Anne.
Donald Trump officiellement investi candidat à la Maison-Blanche, à la Convention républicaine.
Attaque terroriste contre une base militaire au Mali, 17 soldats tués.
En Turquie, les purges au sein de l'appareil d'État et de l'administration se poursuivent après le putsch manqué, en dépit des inquiétudes exprimées à l'étranger.
N'en manque pas les sports et l'économie, mais d'abord le journal.
Au Mali, 17 soldats ont péri hier dans l'attaque contre leur base dans le centre du pays. Le gouvernement malien a dénoncé une opération terroriste coordonnée. Deux groupes armés ont revendiqué l'attaque, un Peul et le groupe djihadiste malien Ansar Dine.
Human Rights Watch épingle les forces de sécurité kényanes. Dans un rapport, l'organisation internationale les accuse de se livrer à des enlèvements et des exécutions extrajudiciaires dans le nord-est du pays, contre des personnes qui soupçonnent de liens avec des extrémistes islamistes.
En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé la prolongation de 2 mois de l'état d'urgence instauré en novembre dernier. Des détails avec Chérubin Dorsil.
La mesure annoncée hier par la présidence entre en vigueur demain 21 juillet. Elle accorde aux autorités le droit de prendre toute mesure susceptible de sauvegarder l'ordre public et la sécurité nationale. Notamment, elles pourront interdire les grèves, empêcher certains rassemblements, fermer provisoirement des commerces et exercer un certain contrôle sur les médias. L'état d'urgence a été instauré en Tunisie en novembre dernier suite à un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle qui avait fait 12 morts en plein Tunis. C'était le 3e attentat de l'année revendiqué par Daesh. Les djihadistes ont récidivé en mars de cette année en attaquant des installations sécuritaires à Ben Gherdan, ville limitrophe de la Libye. La prolongation de l'état d'urgence intervient ironiquement après un mois de Ramadan particulièrement paisible en Tunisie. Aucune attaque n'a eu lieu pendant le jeûne musulman, une première depuis 4 ans.
Chérubin Dorsil, au Zimbabwe, le président Robert Mugabe accuse le chef de file de la Fronde sociale d'inciter à la violence. Le numéro 1 zimbabwéen a pour la toute première fois réagi aux déclarations du pasteur Evan Mawarire depuis que des appels aux grèves et aux manifestations se multiplient dans son pays. Eddie Isango.
Robert Mugabe affirme ne pas connaître cet homme de Dieu qui a réussi par ses diatribes à s'imposer comme chef de la Fronde. Il remet toutefois en cause ses qualités de ministre de l'Évangile, car pour lui, un véritable prédicateur baserait son message sur la paix plutôt que sur la contestation sociale. Monsieur Mugabe a violemment critiqué le pasteur Evan Mawarire lors des obsèques d'un responsable gouvernemental à Harare. Il l'a accusé d'inciter à la violence. Le pasteur, loin de s'en prendre directement au président Mugabe, a lui réaffirmé la nécessité de trouver des moyens pacifiques pour résoudre la situation. La crise économique s'est aggravée cette année avec la sécheresse. Des millions de Zimbabwéens se contentent des petits commerces et les pasteurs accusent depuis l'Afrique du Sud le pouvoir de mettre des hommes à ses troupes. Le Zimbabwe a connu ces dernières semaines une série de manifestations et de grèves, un mouvement rare dans ces pays contrôlés d'une main de fer par Robert Mugabe depuis 1980.
Au Nigeria, 2 millions de personnes sont menacées par de graves pénuries alimentaires dans le nord-est du pays. Ces populations restent coupées de toute assistance et l'UNICEF a indiqué que l'ampleur de cette crise pourrait encore être pire que prévu.
Au Gabon, au moins 2 candidats d'opposition ont déposé des recours devant la Cour constitutionnelle. Ils contestent la candidature à la présidentielle du mois prochain du président Ali Bongo Ondimba, qu'ils accusent d'inéligibilité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU se retrouvent jeudi à huis clos pour un premier vote à bulletin secret sur le successeur de Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies. La sélection parmi 12 candidats déjà en lice sera longue jusqu'en octobre, prédisent des diplomates. 8 d'entre eux viennent d'Europe de l'Est. Parmi les candidates de premier plan figurent la néo-zélandaise Helen Clark, la femme la plus haut placée dans la hiérarchie de l'ONU, et Susana Malcorra, ministre argentine des Affaires étrangères et ex-chef de cabinet de M. Ban.
Le président des États-Unis, Barack Obama, a promis hier à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan l'aide américaine dans l'enquête sur le putsch avorté. mais aussi appeler ce dernier au respect du droit selon la Maison-Blanche. Le point avec Nanit Talani.
Lors d'un appel téléphonique, le président Barack Obama a insisté sur la nécessité de mener les investigations sur les auteurs de cette tentative de coup d'État survenue la semaine dernière en adoptant des méthodes qui renforcent la confiance du peuple dans les institutions démocratiques et l'État de droit. La Turquie réclame aux États-Unis l'extradition du prédicateur musulman en exil, Fethullah Gulen, accusé par Ankara d'avoir fomenté le putsch avorté. Washington a mis en garde Ankara à de nombreuses reprises sur la question des libertés publiques face aux purges menées depuis le putsch avorté dans l'armée, la police et la magistrature. Les États-Unis se font plus insistants. Obama a par ailleurs salué la détermination du peuple turc face à cette action violente ainsi que son attachement à la démocratie.
Le chargé d'affaires américain à La Havane envisage des discussions difficiles entre les États-Unis et Cuba. Cela concerne les dossiers sensibles, malgré des progrès significatifs enregistrés depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
La Corée du Nord a affirmé aujourd'hui que ses essais de missiles de la veille simulaient des frappes nucléaires préventives contre des objectifs militaires américains situés en Corée du Sud. Il s'agit notamment des ports et des aérodromes sud-coréens dans lesquels se trouve de matériel militaire américain.
Le djihadiste le plus recherché d'Indonésie, Santoso, a été tué dans des combats avec les forces de l'ordre. Confirmation de la police après des années de traque de cet extrémiste partisan du groupe État islamique et accusé de multiples attaques.
Notre série sur la présidentielle américaine 2016. L'économie était au centre de la deuxième journée hier à la Convention républicaine de Cleveland. Mais très peu d'orateurs ont touché ce sujet. Par contre, ce qu'il faut retenir, Donald Trump est devenu officiellement le candidat du Parti républicain à la présidentielle américaine de novembre. Nous retrouvons l'envoyé spécial de VOA Afrique sur place, Nicolas Pinault. Bonjour.
Bonjour Eric.
Plusieurs discours à cette deuxième soirée de la Convention.
Et oui, le thème de cette deuxième soirée de débat a totalement été mis de côté. Make America Work Again, remettre l'Amérique au travail. On en a peu ou pas parlé hier, à commencer par le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, qui a non seulement annoncé la nomination officielle de Donald Trump comme candidat du parti, mais surtout parlé d'unité. C'est important, vous le savez, car beaucoup de parlementaires, de sénateurs ou de gouverneurs n'ont pas fait le déplacement à Cleveland. Paul Ryan lui-même n'est pas le supporter le plus ardent de Donald Trump. Et pourtant, hier, il a tenu un discours très convaincant en demandant aux républicains de s'unir derrière Donald Trump. On écoute Paul Ryan.
So what do you say?
Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Et si on unifiait ce parti? Que diriez-vous d'unifier ce parti à un moment où l'unité représente tout? Battons-nous contre nos adversaires avec de meilleures idées, allons de l'avant et restons-y.
Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants.
Nicolas, une tribune offerte également à Chris Christie, le gouverneur de l'État du New Jersey, pour un long réquisitoire contre Hillary Clinton.
Celui qui a longtemps été envisagé pour être le colissier de Donald Trump, un vice-présidentiable comme on dit, Chris Christie, très offensif hier avec un discours à charge, accusateur contre Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État.
In the Middle East, is Hillary Clinton guilty or not guilty?
On l'entend avec cet extrait sonore, il a rangé la foule hier pour désigner une seule coupable de la politique étrangère américaine, Hillary Clinton. Ce fut efficace dans la salle, moins dans la réalité des faits. Chris Christie a aussi parlé des qualités du candidat Donald Trump.
We have a man who is unafraid. We have a man who wants to lead us.
On a un homme qui n'a pas peur, on a un homme qui veut nous guider. Un homme qui juge les gens sur leur performance, peu importe leur sexe, leur race, leur ethnie ou leur religion. Je vous implore, il ne faut pas demander moins dans cette élection. Nous avons besoin de demander plus que Hillary offre à l'Amérique.
Chris Christie, le gouverneur de l'État du New Jersey.
Vous êtes toujours sur VOA Afrique, on parle de la Convention républicaine. L'autre grand moment hier soir à Cleveland, Nicolas, ce sont bien évidemment les interventions des enfants de Donald Trump.
Oui, Tiffany Trump, la fille de 22 ans du candidat issu de son second mariage, c'est la plus discrète des grands-enfants de Donald Trump. Et elle a prononcé un discours qui a atteint son objectif, donner une vision intime de son père, un homme à l'écoute et attentionné, selon elle.
Donald Trump n'a jamais fait les choses à moitié, et encore moins en tant que parent. Mon père a toujours pris des nouvelles de ma famille en Géorgie pour s'assurer qu'ils allaient bien. Mon oncle a servi lors de la guerre du Vietnam et mon arrière-grand-père de 97 ans lors de la Seconde Guerre mondiale.
Tiffany Trump, l'une des filles de Donald Trump. Quant à Donald Trump Jr., il a aussi pris la parole hier soir. Un discours politique très fort avec là aussi des anecdotes personnelles. Il a expliqué que malgré l'argent, son père l'avait élevé en lui inculquant les réalités du monde du travail. Un homme de valeur parfait pour être un homme d'État, selon Donald Trump Jr. Voici ce qu'il a dit hier lorsqu'il évoquait son père.
On en est venu à croire que résoudre nos plus grands problèmes était une tâche impossible. C'est pour cela que nous avons besoin d'un homme qui a pour légitimité d'avoir accompli l'impossible.
Donald Trump, junior, hier à la Convention républicaine de Cleveland. On donne rendez-vous évidemment, Eric, ce mercredi soir pour le discours du colistier de Donald Trump. Il s'appelle Mike Pence, il est le gouverneur de l'État de l'Indiana. Mais on en reparle demain matin sur les ondes de VOA Afrique.
Je rappelle Nicolas que tous ces discours ont été précédés par la procédure d'investiture de Donald Trump. De Cleveland, Idrissa Seydou Dia nous livre les grands moments.
Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, qui préside Escalité, la Convention républicaine de Cleveland, déclarant la victoire de Donald Trump. Avant cela, chaque chef de délégation, par ordre alphabétique, s'était présenté devant le micro pour annoncer la répartition des délégués de son État, tout en sacrifiant au folklore habituel, en déclarant son propre État, pour ainsi dire, le plus beau et le plus grand de tous. Cédant aussi à la tradition, l'ordre alphabétique a été suspendu quand approchait le nombre magique des 1237 délégués, et ce afin de donner la chance à New York, l'État natal de M. Trump, de lui permettre de franchir officiellement le cap des délégués requis. L'honneur a été donné à son fils, Donald Trump Jr., un délégué de New York lui-même, qui avait à ses côtés ses sœurs Ivanka et Tiffany, ainsi que son frère Eric. On craignait encore une saute d'humeur de la délégation du Colorado qui avait quitté la salle pour protester contre la procédure du vote du règlement intérieur. Mais elle est restée cette fois-ci et pour donner calmement la majorité de ses votes à Ted Cruz. Après le vote d'hier, entérinant officiellement sa candidature, c'est demain jeudi que Donald Trump doit se présenter devant les délégués pour leur dire qu'il accepte leur investiture. Mais sans attendre, M. Trump a tenu de New York et dans une vidéo s'adresser aux délégués pour les remercier, pour leur dire le grand honneur que cela représentait pour lui et aussi se vanter du nombre sans précédent de voix qu'il a récolté pendant les primaires.
Together we've achieved historic results with the largest vote total in the history of the Republican Party.
Ensemble, nous avons obtenu des résultats historiques avec le plus grand nombre de voix jamais obtenues dans l'histoire du Parti républicain. C'est un mouvement, mais nous devons aller jusqu'au bout. Donald Trump a prédit la victoire en novembre en déclarant « Je travaillerai dur et ne vous décevrai jamais », avant de conclure avec son nouveau slogan « L'Amérique d'abord ». Son colistier, Mike Pence, a été nommé par acclamation candidat à la vice-présidence. Cela dit, l'affaire du plagiat du discours de 2008 de Michelle Obama par Melania Trump, la femme du milliardaire, a défrayé la chronique pendant toute la journée d'hier, le camp Trump refusant systématiquement de reconnaître qu'il y a eu plagiat. Idrissa Seydou Dia, Cleveland, Ohio.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, nous passons maintenant à nos dossiers du jour au Cameroun. Le rapport rendu public le 14 juillet dernier par Amnesty International concernant l'arrestation de plus de 1000 personnes dans le cadre de la lutte contre Boko Haram continue de faire des vagues dans le pays. Selon ce document, beaucoup de suspects ont été arrêtés arbitrairement et détenus dans des conditions épouvantables. Plusieurs seraient morts des suites de maladies, de malnutrition ou de torture. John Lyndon a recueilli la réaction de Georges-Alain Boyomo, rédacteur en chef du quotidien Mutation au Cameroun.
Il a accueilli ce rapport-là globalement avec, je dirais, beaucoup d'indignation. On a le sentiment que la plupart des Camerounais estiment que c'est un rapport biaisé, un rapport qui manque de crédibilité. Et cela parce que, notamment dans ce rapport, on retrouve des allégations qui mettent l'armée camerounaise et le groupe terroriste Boko Haram sur le même pied d'égalité. Et c'est un tout petit peu gênant parce qu'il faut distinguer la victime du bourreau. Le bourreau, c'est la secte terroriste Boko Haram et la victime, c'est le Cameroun. Maintenant, il y a quand même quelques esprits lucides qui reconnaissent qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce rapport, il y a également du bon. Et que autant le Cameroun, à travers son armée, doit revoir sa copie, autant Transparency doit s'amender dans ses prochaines productions.
Alors, sur le terrain, est-ce que oui ou non, il y a des gens effectivement qui sont arrêtés?
C'est clair que pour une guerre, pour toute guerre, qui plus est une guerre de type asymétrique, il y a forcément des dégâts collatéraux, il y a des bavures. Mais je pense qu'il faut, dans un tel rapport, pour ainsi dire, avoir le sens de la nuance, parce que déjà, même pour la collecte, pour collecter des informations sur le terrain, ce n'est pas évident, y compris pour une organisation de la Chambre d'Amnesty International. Il faut en plus de cela procéder à la critique des sources, parce qu'il s'agit d'une enquête et vous êtes journaliste autant que moi, vous savez que faut pas se fier à des avis sans les avoir recoupés.
Et qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour réagir contre ce rapport?
Le gouvernement camerounais, je pense, a opéré une sortie médiatique à travers le ministre de la Communication. Il y a une conférence de presse plus importante qui est prévue d'ici à Yaoundé. Mais la presse fait des reproches au gouvernement, c'est-à-dire Transparency a envoyé ses premières conclusions au gouvernement autour du 7 mai, c'est-à-dire longtemps avant la publication du rapport. Le gouvernement n'a pas cru devoir répondre.
Georges-Alain Boyomo à Yaoundé, au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Oui, Africa Music du Cameroun, nous allons en Afrique du Sud où nous assistons à la suite de la 21e conférence internationale sur le sida, alors que la pandémie a déjà fait plus de 30 millions. Les participants à la rencontre de Durban ont fait le constat que les recherches d'un remède prendront encore du temps. En attendant, il faudra poursuivre les efforts de prévention. Et Timothée Donangma est adjoint à Durban, le docteur Zogo, un médecin s'occupant de personnes vivant avec le VIH à Cape Town.
Nous sommes focalisés au niveau où il faut réunir les moyens parce qu'il semblerait que nous avons oublié les enfants et les adolescents. Les enfants de moins de 5 ans, ils ont l'attention du monde facilement et les femmes enceintes. Mais par contre, les enfants de 5 ans au-dessus et les adolescents, on n'a pas développé assez de stratégies pour pouvoir les assister. Donc il y a beaucoup de discussions pour le moment pour pouvoir faire face à ça. Mais il faut néanmoins ne pas oublier que très récemment, l'OMS a décidé ou a mis en place une stratégie où dès qu'une personne est diagnostiquée avec le VIH, la personne doit être immédiatement traitée.
Alors, à ce sujet, Dr Zogo, on a parlé de quelques inquiétudes du côté du financement des soins.
C'est vrai, c'est pour cela, juste avant l'ouverture officielle, il y avait des associations et des organismes réunissant les malades de VIH et avec un message strict disant s'il n'y a pas de nouvelles découvertes, il n'y aura pas moyen de stopper le sida. Et c'était un message lancé pour que le financier puisse mettre la main à la pâte pour qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans le domaine.
Vous exercez en Afrique du Sud où vous vous occupez des personnes atteintes du VIH. Quelle est la situation dans ce pays?
Le pays est en train de conduire un des grands programmes sur la planète. C'est le plus grand programme de traitement sur la planète. L'Organisation mondiale de la santé a pris la nouvelle stratégie de pouvoir tester et soigner. Mais déjà, ici en Afrique du Sud, on parle d'appliquer cette nouvelle stratégie au plus tard au mois de septembre. Et il y a déjà des discussions au niveau des pays des BRICS. Les BRICS réunis, comme vous le savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ils voudraient voir au niveau des BRICS comment implémenter cette nouvelle stratégie.
C'était donc le docteur Zogo à Durban. La force française Sangaris devra se retirer de la Centrafrique d'ici le mois d'octobre prochain. L'annonce a été faite la semaine dernière par le président François Hollande. Après 3 années d'intervention étrangère pour empêcher le chaos dans le pays, comment les Centrafricains apprécient-ils l'annonce du retrait des forces françaises dans leur pays encore instable sur le plan sécuritaire? La réponse dans ce reportage de Freeman Sipila.
Ici, dans les rues de Bangui, cette nouvelle ne surprend plus personne. Le commandement de Sangaris ainsi que des hautes autorités françaises l'avaient déjà annoncé, mais sans préciser de date exacte. Pour ces centrafricains, le retrait de la Sangaris ne fait ni chaud ni froid.
Moi, le problème de départ de Sangaris, ça me dit absolument rien. Mais ce que je demande, c'est qu'on enlève l'embargo, qu'on donne les armes au FACA, à l'armée centrafricaine, pour défendre le pays.
Ah, mais c'est une bonne chose. Je crois qu'ils ont perduré. Nous avons des forces intérieures, donc il faut que nos forces rentrent en action. Donc c'est une bonne nouvelle.
Position soutenue par Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine. Il estime que les forces françaises ont contribué à la détérioration du climat sécuritaire en Centrafrique.
Tout le monde sait en Centrafrique que les Sangaris sont venus complexifier la crise centrafricaine. Et aujourd'hui, on leur demande de repartir en disant qu'ils ont accompli leur mission. Au contraire, rien d'intéressant n'est fait. Tout le monde constate que la situation sécuritaire en Centrafrique demeure.
La force française déployée dans le pays au plus fort de la crise est intervenue à plusieurs reprises pour empêcher des violences ou neutraliser des groupes d'hommes armés hostiles à la sécurité des civils. Dans le milieu politique, l'on se réserve de tout commentaire, attendant de voir l'évolution de la situation. Ce fonctionnaire centrafricain qui a requis l'anonymat éprouve un sentiment de regret à l'annonce de la nouvelle du retrait des troupes françaises de Sangaris.
Il y a un sentiment de regret parce que n'eût été les efforts des éléments Sangaris, on ne pouvait pas avoir la stabilité sociopolitique actuelle. Ils se sont battus pour sauver depuis le 5 décembre. Grâce à eux, on a eu à barricader la route aux éléments des Séléka qui sémaient la terreur, qui faisaient des exactions de crimes atroces à l'égard de la population.
Fort de 2500 hommes, entre 2013 et 2014, aujourd'hui l'effectif de la Sangaris est réduit à au moins 500 hommes. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Mozambique a engagé le groupe américain de conseil financier Lazard pour évaluer sa dette extérieure. Après la découverte de 1,35 milliard de dollars d'emprunts dissimulés aux institutions internationales, ces prêts contractés de manière opaque en 2013 et 2014 ont servi notamment à financer des embarcations et installations militaires. Le premier sommet d'affaires turco-africain se tiendra du 30 septembre au 2 octobre à Istanbul, a rapporté TABA, la Turkish African Business Association. Selon les responsables de TABA, le Maroc jouera un rôle d'intermédiaire entre la Turquie et les États africains en raison de ses relations de qualité sur le continent. Les émissions de dettes réalisées par les États et entreprises d'Afrique subsaharienne ont atteint 6,9 milliards de dollars au premier semestre, soit une baisse de 10% par rapport à la même période en 2015, selon Thomson Reuters et Freeman Consulting. La Côte d'Ivoire a été le plus grand pays émetteur de titres de dette avec 4,1 milliards de dollars. Elle est suivie par l'Afrique du Sud avec 2,1 milliards de dollars.
C'était la Minute Éco. Merci Nathalie. Nous enchaînons directement avec votre page sportive avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Erika.
Football d'abord, une volte-face. L'entraîneur français Paul Le Guen ne sera finalement pas conseiller technique de la sélection du Nigeria.
Oui, c'est ce qu'a annoncé la Fédération nigériane de football qui avait pourtant officialisé lundi la venue du technicien français qui aurait refusé un contrat juste avant sa signature. Nous n'avons jamais dit que Le Guen avait obtenu le poste. C'est justifié tant bien que mal la fédération dans un communiqué. Paul Le Guen, âgé de 52 ans, devait superviser la sélection avec l'assistance du Nigérian Salisu Youssouf, qui aurait été entraîneur en chef. Il aurait eu pour objectif de qualifier les Super Eagles pour la Coupe du Monde 2018 en se sortant d'un groupe difficile constitué de l'Algérie, du Cameroun et de la Zambie.
On dit la petite vient en mangeant, n'est-ce pas? En Angleterre, Leicester, le champion en titre, aimerait bien rebelloter.
Gagner deux fois, c'est un rêve, a avoué l'entraîneur italien Claudio Ranieri à trois semaines de l'ouverture de la Premier League, c'est-à-dire le 13 août prochain. Ranieri est champion surprise de Premier League avec Leicester la saison passée. Dans un entretien accordé mardi au journal britannique The Sun, Ranieri, âgé de 64 ans, assure que la pression n'est pas sur son épaule, mais sur les grands clubs de Premier League privés de titres ou de la Ligue des champions, à l'instar de Liverpool et de Chelsea, respectivement 8e et 10e lors du dernier exercice.
Et en Espagne, Bagassi, le FC Barcelone et Qatar Airways maintiennent leur partenariat.
Oui, le Barça et la compagnie aérienne se sont entendus pour prolonger leur partenariat d'une saison jusqu'en 2017. L'accord conserve les mêmes termes du contrat signé avec la Qatar Foundation en 2010 qui rapportait près de 30 millions d'euros plus des bonus en cas de titre par saison au club catalan.
Parlons du dopage en athlétisme avant de terminer. Le ministre russe des Sports interdit à Rio Bagassi.
Oui, Vitaly Mutko, persona non grata aux Jeux de Rio, c'est la décision du Comité international olympique. Mais pour les sportifs menacés d'une exclusion collective après le cinglant rapport McLaren sur le système de dopage russe lundi, le CIO a décidé de ne rien décider en se défaussant sur les fédérations internationales.
C'est tout pour les sports. Merci Bagassi.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
She's a small town hardworking woman just trying to make a living. Working three jobs, feeding four little mouths in a rundown kitchen. When you're never taking nothing and doing nothing but. Small town, hardworking woman just trying to make a living. Working three jobs, feeding four little mouths in a rundown kitchen. When you're never taking nothing and doing nothing but giving. It's hard to be a good wife and a good mom and a good Christian.
Désolé d'interrompre cette belle mélodie. Ainsi va le monde aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Gardez la conversation sur notre page Facebook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manelakis à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.